Simone questionne par Claude Léa.
L'émission prospective et incitative qui laisse gambader les animaux et gamberger les cérébraux, à moins que ce soit le contraire. Iris Akhtar.
Bonjour Claude Léa.
Bonjour Olivier Cheval.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux coordinateurs de l'antenne dijonnaise de L214, c'est bien ça?
Tout à fait.
Oui.
Avec vous, on va essayer de montrer comment on peut vivre progressivement en paix avec son assiette et puis peut-être aussi en paix avec ses vêtements. On va peut-être présenter pour ceux qui ne connaissent pas l'association L214. Pourquoi elle s'appelle L214 en fait, cette association?
Alors L214, ça fait référence à une loi en fait, donc la loi L214 du Code rural qui définit les animaux comme des êtres sensibles.
Alors, cette association fait parler de plus en plus d'elle par différentes opérations dans les abattoirs, etc. Mm-hmm. Elle a plusieurs objectifs quand même.
Oui, l'objectif principal de L214, c'est de permettre au débat public de s'ouvrir sur ces questions animales et d'élevage principalement. Après, il y a aussi des objectifs plus d'un niveau légal, c'est-à-dire faire en sorte que petit à petit, des lois passent pour protéger les animaux et à force aller jusqu'à l'arrêt complet de l'exploitation animale pour l'alimentation.
Parce que les gens restent avec une espèce d'image bucolique du fermier qui a 3 vaches, qui les élève comme ça, qui les connaît par leur nom. C'est souvent comme ça, la représentation, même chose pour les cochons et les poules. Mais en fait, la réalité industrielle, quand elle saute aux yeux, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec ce monde ancien.
Tout à fait. On essaye de nous montrer des images de l'animal heureux qui est dans son pré. De plus en plus d'ailleurs, vu que les gens se rendent compte que ce n'est pas la vérité, donc on essaye d'autant plus de nous la mettre dans la tête. À savoir qu'en France, la grande majorité des animaux d'élevage, et quand je dis la grande majorité, on parle de bien 80% des animaux d'élevage, sont élevés dans le système intensif, en fait. Hein. Donc, quand on parle des poulets, on est à plus de 86% d'animaux élevés en batterie ou en hors-sol. Les cochons, on est à 97% d'animaux qui sont élevés donc en bâtiment clos, qui ne voient pas la lumière du jour. Donc, on peut difficilement parler... On peut plus maintenant continuer à mentir aux gens sur les conditions d'élevage des animaux. Donc c'est pour ça qu'L214 veut dévoiler au public la vie quotidienne de ces animaux et leur abattage.
Pardon, je me permets, petite anecdote. Si je ne me trompe pas, j'ai trouvé ça sur L214 Éducation, donc qui est une initiative d'L214 qui a pour objectif de permettre de fournir des outils pour intervenir dans les classes. Où il y a quelque chose qui est dit, qui est la majorité des animaux qu'on voit à la télé, ce sont des vaches dans des prés, etc. Alors que la majorité des animaux qu'on mange ne sont pas des vaches, ce sont plutôt des cochons qu'on voit très rarement à la télé au final, et des volatiles. Donc là, c'est tous les animaux que malheureusement, les oiseaux qu'on mange, oui. Et qu'on voit aussi très peu à la télé. Au final, ouais. On montre l'image de la vache heureuse. Et finalement, c'est celle qu'on consomme le moins, quoi.
Exactement. Et on ne montre jamais les porcs, les truies incarcérées, parce
non.
que c'est ça, elles sont incarcérées dans le métal. Bon, alors, on aura bien compris que vous êtes une association nationale de protection des animaux qui veut faire prendre conscience aux gens de la réalité de l'élevage. Qu'est-ce qui la différencie avec les autres associations de protection des animaux? Parce qu'il y en a beaucoup, hein.
Ce qui nous différencie d'une partie des autres associations de défense animale, c'est que L214 est abolitionniste et antispéciste. Donc abolitionniste, ça veut dire qu'on vise l'arrêt pur et simple de tout type d'exploitation animale. Et antispéciste, ça veut dire qu'on ne fait pas de hiérarchie entre les individus. Donc que ce soit les êtres humains, les chiens, les chats, les vaches, les cochons, etc. Et autre chose qui nous différencie des associations, parce qu'il y a d'autres associations qui sont abolitionnistes et antispécistes, bien sûr, mais L214 va se concentrer principalement sur les animaux pour la consommation.
Enfin, une association de défense des chiens et des chats.
Non, c'est ça.
Aussi, un trait qui nous caractérise peut-être par rapport à d'autres associations antispécistes et abolitionnistes, c'est le fait que nous, on se dirige directement vers le public, en fait. Nous, on veut montrer au grand public et on va à l'encontre des gens dans la rue pour leur parler directement, faire de la sensibilisation directe avec les consommateurs qui, pour nous, sont ceux qui ont le pouvoir de changer beaucoup de choses. Il y en a d'autres, bien sûr, mais il faut aussi commencer par soi et donc commencer à aller parler aux gens dans la rue pour les sensibiliser directement.
Alors, dans les obstacles, surtout après le salon d'agriculture qui vient d'avoir lieu, on nous dit que si on est végétarien ou vegan, on va ruiner l'agriculture française, hein, la FNSEA nous chante ce registre, et qu'on va faire perdre des emplois dans l'industrie agroalimentaire si on continue comme ça. Qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Bah déjà, ça, c'est un vaste débat. Hein. Donc déjà, ce qu'on peut répondre à ça, c'est est-ce qu'on veut perdurer ce modèle d'agriculture où la plupart des agriculteurs ne gagnent même pas un SMIC, où ils sont dans une misère financière fortement endettée. Est-ce que ce sont des personnes heureuses ? Je ne pense pas. Quand on parle des suicides d'agriculteurs, je ne pense pas que ce soit à cause des véganes qu'ils se suicident, mais plutôt à cause des lobbies de l'agroalimentaire. Donc c'est un vaste débat à avoir. Après, je pense qu'on peut repenser une société, et c'est le but d'ailleurs de notre association, et c'est le but de toutes les personnes véganes et antispécistes, de repenser une société qui soit égale et qui soit bonne pour tous, donc pour les agriculteurs, pour les animaux, et pour tous les gens qui cohabitent sur cette terre, tout simplement.
Ça permet aussi de dire, là j'ai des chiffres sous les yeux en fait, donc oui. C'est toujours intéressant un petit peu les chiffres. Alors oui, soi-disant qu'être vegan ça ruinerait l'agriculture et ça ferait perdre des emplois à plein de monde. Alors là par exemple, on a une campagne contre l'élevage de poules en cage, et c'est une question qui nous revient souvent, si on interdit l'élevage de poules en cage, ben, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs ? Il faut savoir que 69% de la production totale des œufs donc, sont issus de l'élevage de poules en cage. Ça représente 380 éleveurs. Et les 31% qui restent, donc, c'est de la production dite alternative, et ça représente 1660 éleveurs. Donc, non, en fait, le véganisme n'est pas particulièrement une source de perte d'emploi.
D'accord. L214 a remporté des victoires qui ont fait date. Est-ce qu'on peut en parler ? Il y a des actions nationales qui sont en cours ?
Oui, alors des victoires, je ne sais pas si on peut vraiment parler de victoires. Après, une chose est sûre, c'est que ce qu'on considère comme étant une victoire, en tout cas, c'est vraiment d'avoir permis de l'introduction dans le débat public des questions animales. Aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions, mais pas que pour les animaux d'élevage. Hein. Là, il me semble que c'est 30 millions d'amis qui a sorti un rapport sur les 5 causes que les Français voudraient voir avancer sur les animaux. Et notamment, il y a l'arrêt des cirques avec animaux, il y a l'arrêt de l'expérimentation animale. Donc ça, c'est des causes qui ne sont pas de notre ressort, même si on les défend, mais qui ont été amenées dans le débat, en partie grâce à L214. Donc ça, c'est notre plus grande victoire, on peut dire.
Les actions en cours, on va en parler sur l'antenne régionale peut-être ?
On peut en parler maintenant, hein, parce que les actions en cours, elles sont nationales. Hein. On essaye de garder, en fait, à L214, vraiment des actions coordonnées. Donc chaque antenne essaye de faire la même que les autres pour avoir plus de visibilité et pour vraiment faire passer un message qui est clair. Donc en ce moment, nos deux chevaux de bataille, on va dire, ce sont premièrement les poules pondeuses. Donc on demande l'arrêt pur et simple de l'élevage des poules en batterie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la campagne sur la fourrure qui a lieu en ce moment même, donc qui demande aussi l'arrêt complet de l'élevage d'animaux pour la fourrure, à savoir que beaucoup de pays européens ont déjà arrêté ce type d'exploitation, et la France a encore plus d'une dizaine d'élevages d'animaux qui sont élevés pour leur fourrure dans des conditions abominables, qui ont été dévoilées dans un reportage, dans une enquête de L214 qui est sortie il y a à peu près 2 semaines, qui a été tournée en Vendée. Pour revenir rapidement sur les poules, donc c'est notre action du moment. Donc le président de la République a annoncé que les œufs coquilles donc ne seront plus issus de poules élevées en batterie. Par contre, il ne parle pas des ovoproduits qui représentent la majorité des œufs utilisés donc dans tout ce qui va être en fait quand on parle d'ovoproduits, on parle des œufs qui sont utilisés dans les pâtes, dans les gâteaux, dans voilà, donc qui ne sont pas des œufs
la viennoiserie industrielle.
Voilà, donc dans la viennoiserie, dans tout ça. Et donc ça, c'est quand même la majorité des œufs produits en batterie servent à ça, en fait, et ne servent pas à la consommation directe. Donc en fait, c'est pas suffisant. Cet engagement n'est pas suffisant et on demande à ce que les poules ne soient plus élevées en batterie en France. L'Autriche et la Suisse ont déjà fait ce pas vers l'avant.
Et sur les poules, justement, il y a 9 Français sur 10 qui sont pour l'interdiction de l'élevage de poules en cage, selon un sondage YouGov réalisé pour L214 en 2018. Et il y a une pétition nationale qui rassemble plus de 70 000 signatures à l'heure d'aujourd'hui. Rien qu'en Bourgogne, c'était 2780 personnes qui avaient signé, Bourgogne-Franche-Comté. Et le 17 février, on a aussi fait une action nationale qui a rassemblé plus de 500 personnes, enfin 500 militants, dans plus de 40 villes. Il y a eu 21 000 cartes signées à ce jour-là, le 17, et les actions continuent depuis pour en signer encore plus, parce que l'idée, c'est d'amener ces cartes devant les députés et de leur dire, voilà, on a tant de personnes dans votre circonscription, en plus des personnes qui ont déjà signé la pétition, qui veulent arrêter l'élevage de poules en cage.
Quant à la fourrure, c'est vraiment relayé par des stars du monde entier, on va dire.
Absolument.
On trouve, il y a des spots télé, sur Twitter, je trouve des messages tout le temps, il y a énormément de messages.
Oui, alors là, L214 a fait un travail intéressant, notamment avec la Fashion Week, je crois, de Paris, où ils sont allés rencontrer des personnalités et demander de faire des petites vidéos d'une minute, deux minutes. Dans ces vidéos, on a des personnalités qui sont issues de la mode, donc il y a Lolita Lempicka, par exemple, qui s'est engagée contre la fourrure, il y a aussi Franck Sorbier, etc., qui sont engagés contre ça. Ça, c'est issu de la vidéo dont parlait Iris sur l'élevage de visons en Vendée. La pétition qui est associée à cette vidéo, elle a rassemblé plus de 99 000 signatures déjà, en à peine 2-3 semaines. À savoir qu'en décembre, on avait déjà fait une vidéo à L214 sur les lapins Orillag. Et cette pétition avait déjà rassemblé 50 000 signatures, plus de 50 000 signatures. Donc la fourrure, c'est quand même maintenant un gros combat, L214.
La fourrure, c'est un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que énormément de gens, quand on leur parle, quand on leur dit tout simplement « mais tu sais que tu portes de la vraie fourrure », la plupart l'ignorent. Et en fait, la vraie fourrure, on la cache, on croit que ça coûte cher, c'est pas vrai. La vraie fourrure, ça ne coûte pas cher. C'est partout, c'est caché, dans les pompons, dans les capuches. Et c'est vraiment quelque chose auquel nous, consommateurs, il faut qu'on fasse attention, et on nous piège en nous faisant croire que c'est de la fausse. Et en fait, on est tellement persuadé que c'est plus possible d'utiliser des animaux pour leur peau qu'on n'y fait plus attention. Et donc, il faut vraiment être très sensible à ça et tout le temps vérifier sur l'étiquette qu'est-ce que c'est que cette fourrure, est-ce que c'est de la vraie, est-ce que c'est de la fausse. Et maintenant, beaucoup de stars hein, de la mode s'engagent à ne plus en utiliser et disent que la fausse, c'est tout aussi bien, quoi.
Alors, le test, la savoir des différenciers, ce n'est pas simple, parce qu'on lit sur des sites, il faut allumer avec un briquet, on le voit tout de suite. Bon, je ne vois pas approcher un briquet d'une capuche dans un magasin. Je pense que le fait de souffler sur la fourrure et de voir si à l'intérieur les petits poils sont très très fournis permet de voir si c'est une vraie ou une fausse.
Oui, alors c'est vrai que le moyen le plus efficace, effectivement, c'est de la brûler, hein, parce que c'est par rapport à l'odeur. Après, effectivement, ce que vous dites est vrai, par rapport au sous-poil, en fait, dans une vraie fourrure, on a vraiment le sous-poil de l'animal, et on a cet effet un peu de légèreté, en fait, donc quand vous la portez, ça fait un peu, ça flof, ça vole au vent. Après, il y a des fausses fourrures qui sont très bien imitées, donc c'est vrai que c'est pas évident. Après, on peut aussi simplement regarder les marques, hein. Il y a des marques, vous êtes 100% sûr que c'est de la vraie. Hein. Canada Goose, c'est de la vraie fourrure. En plus, c'est de la fourrure de coyote qui sont trappées. C'est
des oies aussi.
Indescriptible. Voilà, donc c'est des plumes d'oies et c'est de la fourrure de coyote. C'est une méthode indescriptiblement cruelle. À savoir que le créateur se défend en disant que ce sont des nuisibles. Donc déjà, à qui est-ce de dire qu'un animal est nuisible ou pas? Déjà certainement pas à lui. D'autre part, ce qu'il ne dit pas, c'est que sur tous les pièges qu'on pose, il y a à peu près 7 animaux pour un coyote qui sont tués pour rien.
On va faire une petite pause musicale.